À toutes et à tous, très chères auditrices et très chers auditeurs du Troisième Lieu, je suis absolument ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle interview qui s'annonce tout simplement exceptionnelle, puisqu'aujourd'hui, on reçoit un groupe de rock, et ce groupe, c'est les Flamingos. Bonjour, comment allez-vous ?
Ça va bien.
Nickel.
Nickel, super.
Parfait.
Et toi, tu vas bien ?
Bah oui, moi ça va très bien, merci de demander, c'est très sympa. Je pense qu'on va pouvoir commencer très rapidement en vous demandant de vous présenter, tout simplement.
Du coup, salut à tous, moi c'est Elian, je suis le bassiste du groupe. J'ai rejoint le groupe un peu par hasard quand j'ai vu une petite affiche au conservatoire qui proposait de faire du Hendrix.
Donc salut, moi c'est Julien, le guitariste du groupe, donc accessoirement en sciences politiques aussi à Lyon 2, c'est super de se faire interviewer sur son campus. Et voilà, donc on compose tous ensemble, on essaie de faire la musique tous ensemble, mais voilà, on a tous chacun des rôles un peu répartis et...
Yes. Moi c'est Roméo, je suis le métronome du groupe, le batteur quoi. Que dire de plus, étudiant en musicologie à Lyon 2, moi aussi en Sciences Po, mais bon je suis sorti de prison avant vous.
Et moi c'est Manon, donc je suis la chanteuse du groupe et voilà, ça va faire un an un peu plus qu'on bosse avec tout le monde, donc voilà, pareil en Sciences Politiques à Lyon 2 aussi.
Ok, donc vous êtes presque tous de Lyon 2 du coup, sauf Evian, tu nous avais dit que t'as rejoint l'aventure, entre guillemets, après avoir vu une affiche au conservatoire. Explique-nous un peu comment ça s'est passé, d'avoir rejoint une équipe faite uniquement d'étudiants de Lyon 2.
Ouais, en fait, déjà, j'avais vu ce petit mot sur le panneau, c'était pour faire de base des reprises de Hendrix. Donc je connaissais pas du tout le projet, et bah, j'avais répondu par mail, j'ai envoyé un message à Julien, je crois. Puis après, on s'était vu, il m'avait pitché l'idée, et ensuite, on s'était fait une répète, je crois, tous ensemble. La première fois, ça devait être au Jack-Jack. Et ça s'est passé assez nickel, je crois. Ça s'est fait très naturellement. Et,
voilà. C'était horrible. Personnellement, c'était horrible. Je rigole.
Beaucoup de pression. Non, c'était super. J'étais un peu surpris parce qu'ils étaient tous tout jeunes par rapport à Maxi Fluvier. Parce que quand j'avais fait l'annonce, je savais pas du tout pour quel type de projet c'était. Je savais juste que c'était pour faire de la musique. Mais ça s'est passé nickel et depuis, c'est vraiment, vraiment très sympa.
Tu disais qu'il t'avait semblé un peu jeune, parce que dis-nous, toi, t'as quel âge et quel âge ont les autres membres du groupe ?
Moi, j'ai 27 ans et les autres, vous avez 21 ans.
Ouais, 20 ans. On va s'en donner 21, ouais, c'est ça.
Donc, ça a commencé avec des reprises de Hendrix, ou alors est-ce que peut-être ça a commencé un peu avant que Elian ne rejoigne l'aventure ?
En fait, à la base. Le projet avait commencé avec une annonce que j'avais posée à la fac il y a maintenant deux ans et demi à peu près peut-être. Et Julien avait répondu à l'annonce et pendant, je dirais, bien 6 mois, on était que tous les deux, on répétait au Jack-Jack, compo, reprise, etc. Et arrivé le projet Hendrix en septembre de l'année dernière, il y a 2 ans du coup maintenant. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à chercher des membres. Donc on a d'abord eu Manon qui a rejoint le projet, puis ensuite Elian par la suite.
Ok, donc le projet initial, c'est toi, Roméo, avec Julien.
Voilà, c'est ça. Bon, après, l'objectif, c'était d'avoir d'autres membres aussi. C'était pas juste d'être que nous deux à faire de la musique, parce qu'on allait très vite être limités. Ensuite, le projet Hendrix est arrivé, ça nous a permis de finaliser la formation avec Elian et Manon.
Ok. Et est-ce que, dès le début, du coup, ça a toujours été le rock, ou il y avait d'autres idées avant ?
En fait, on se cherchait. Hein. On était là, tous les deux, à se dire, on va former un groupe, on va faire de la musique. On a tous les deux nos origines rock. Voilà, Roméo adorait les Beatles. Enfin, il adore toujours les Beatles, mais c'était vraiment, oui, bien sûr, mais c'était vraiment la référence de base. Moi, j'ai cette petite origine aussi, évidemment, tout ce qui est Hendrix, Led Zeppelin, parce que voilà, je suis un guitariste de blues, donc évidemment, quelle origine j'écoute ça. Mais bon, voilà, après, on mûrit, on écoute d'autres choses, on découvre d'autres choses et on s'est cherché. Mais voilà, l'objectif, c'était de construire un projet musical, évidemment, en groupe, et puis que ce groupe se nourrisse lui-même de toutes les influences de tout le monde. Voilà, enfin, le principe du groupe de musique, quoi.
Ok. Et du coup, quand Manon t'a rejoint, toi, est-ce que tu étais déjà dans cet univers du rock ou c'est un univers que tu as découvert en rentrant dans le groupe ?
Alors, plutôt. J'avais quelques aspirations quand même rock, parce que mon père écoute beaucoup ça. Mais pas vraiment. Enfin, je sais que j'ai répondu au message de Julien. Il avait envoyé ça sur le groupe WhatsApp de la fac, enfin, genre de la licence. Oui, je cherche à monter un groupe. On est déjà un guitariste, un batteur. Et on aimerait du coup plus de gens pour compléter la formation musicale et peut-être à but professionnalisant, etc. Donc il n'y avait pas du tout Hendrix qui était mentionné. Donc je me suis dit, bon, ok, je réponds. Et on s'est vu une fois. Je suis allée répéter une fois aussi avec eux. Et puis ça s'est bien passé. C'est là que j'ai compris un petit peu le délire du truc. Et après, je ne suis pas du tout fermée. Moi, je suis plus inspiration funk, pop surtout. Mais c'est un univers, genre tout ce qui est rock, qui me plaît beaucoup. Et c'était aussi, genre pour moi, une occasion de d'ouvrir mes horizons musicaux, quoi.
Ok, nickel. Et bien, toi, très rock, avant de rejoindre le groupe, du coup, tu nous en parlais un peu ?
Ouais, moi, j'en ai fait beaucoup. Quand j'étais un peu plus jeune, j'avais un groupe de métal quand j'avais 15 ans, et c'était métal bien agressif. Après, j'avais fait un groupe de rock aussi dans cette même période. Et puis, depuis, ça a pas mal changé. C'est plus beaucoup de funk et pas mal de jazz aussi. Là, je fais beaucoup, beaucoup de jazz depuis un an. Mais le rock, j'ai toujours aimé ça et c'est toujours trop bien à jouer. En live, c'est vraiment génial par rapport à d'autres styles. Enfin, il y a vraiment une énergie que tu trouves pas dans tous les styles. Et ce côté-là, ça me manquait. Ça faisait vraiment longtemps que j'en avais pas fait. Et du coup, j'étais vraiment très content de retrouver du bon gros rock, quoi.
Et vu que vous nous parlez aussi d'autres styles musicaux, est-ce qu'éventuellement, on peut penser que le groupe est amené à évoluer, peut-être à se diriger vers d'autres styles musicaux, ou vous préférez rester purement rock ?
À la base, oui, c'est ça. Quand on commençait à bosser avec Julien, on était essentiellement sur du rock. Mais quand on a commencé vraiment à composer, il y a beaucoup d'influences funk qui sont arrivées dans les compos et dans nos arrangements. Dans nos arrangements, je dirais même qu'aujourd'hui, il y a des reprises et des compos qui ne sont pas forcément rock, voire presque pas du tout rock, en fait.
Ouais, c'est vrai.
On a beaucoup évolué sur ce point-là, effectivement.
Ouais, ça a mis quelques temps à trouver un peu la recette du groupe, mais finalement, chacun a apporté sa patte. Moi, j'ai apporté un peu de funk, Julien aime beaucoup ça aussi, du coup, il en apporte pas mal. Manon a apporté un côté un peu pop. Roméo, des fois, des petits fils un peu jazz. Enfin, il y a vraiment... chacun rapporte sa contribution, et à la fin, ça fait un ensemble qui devient cohérent de plus en plus et qui tient bien la route.
Et justement, avec toutes les inspirations différentes que vous avez, comment ça s'est passé un peu les premières répétitions quand le groupe était enfin formé dans son intégralité ?
En soi, c'est le projet Hendrix qui nous a lancé. Ce projet Hendrix-là nous a lancé sur pas mal de choses. C'est-à-dire qu'on avait aussi on avait évidemment cet objectif avec ce projet des concerts. On avait 4 concerts en lien avec que ce soit l'ENM, l'École nationale de musique de Villeurbanne, ou d'autres MJC autour du Grand Lyon. Et cet objectif-là, ouais, nous a un peu poussé à aller un peu vite, tu vois, sur le projet. Et comment ça s'est passé ? En soi, il a fallu qu'on se mixe vite, qu'on se connaisse vite, qu'on travaille beaucoup, parce que l'objectif était là, rapidement. Et en soi, ça s'est bien passé. On est encore là, donc ça s'est bien passé. Enfin, j'espère, ça s'est bien passé pour vous.
Niveau timing, c'était quoi ? On a commencé à répéter tous ensemble février-mars, et premiers concerts, ça devait être en mai, non ?
Ouais, c'est ça, ouais.
C'est ça. Donc il devait y avoir 2 mois et demi, je crois, pour mettre en place un set de, quoi, c'était 25 minutes ?
Peu plus.
Ouais, 25-30 minutes.
25-30 minutes. Donc ouais, il y avait quand même du boulot, d'autant que c'était... Enfin, on avait fait le choix de pas reprendre les musiques telles quelles. Parce que du coup, le projet, c'était 4 groupes, un de chaque organisme. Et ensuite, on faisait 4 concerts dans chacun des organismes. Donc, il y avait l'école de musique de Saint-Priest. Il devait y avoir une école de musique à Vanvelin, ouais, aussi. l'ENM de Villeurbanne. Et le dernier, c'était quoi ? Oui, c'était le Jack de Bron, du coup. Et donc, fallait faire un set qui tenait la route. Et il y avait la volonté de vraiment modifier et de mettre une empreinte assez personnelle sur chacune des reprises qu'on faisait. Donc il y a eu notamment Hey Joe en version reggae, qui
à peine modifié,
qui n'a pas laissé indifférent et qui n'a pas forcément plu à tout le monde, mais qu'on avait vraiment modifié et qui avait vraiment, enfin, sur laquelle on avait vraiment mis une identité, enfin, on avait vraiment voulu caler notre identité dessus. Donc voilà, caler tout ça en 2 mois, c'était quand même du boulot et ça s'est super bien passé. Ça c'est c'est très vite mixé et ouais. Ça a très vite pris.
Ouais, en vrai, 2 mois, c'est assez court pour préparer un nouveau projet, surtout un premier projet. Et du coup, comment s'est passée cette première scène pour vous ?
Pour ma part, la première a été un peu stressante. D'ailleurs, je pense que ça se voit sur les photos qu'on a prises. Je suis pas du tout fun. Mais après, honnêtement, ça s'est super bien passé. Et l'expérience de scène, c'est... Enfin, quand t'as fait une scène, en fait, t'as envie d'y retourner le plus vite possible. Mais sinon, franchement, après, les quatre concerts se sont à peu près tous vraiment bien passés sur scène. On s'est tous... Enfin, on s'entendait super bien. Il y avait vraiment une alchimie, je trouve, entre nous. Et les retours ont été super bons de la part des gens qui organisaient aussi le projet. Donc, ouais, dans l'ensemble, ça a été hyper positif, quoi.
Ouais, carrément. Puis avec Roméo, c'était notre... Enfin, c'était... une de nos premières scènes que Elian et Julien ils avaient déjà un petit peu plus de bouteilles. Personnellement, la première scène, enfin j'en étais à trembler, il y avait un mélange d'excitation, de stress, c'était une boule dans mon estomac, c'était assez dingue. Et je pense que même le moment avant le concert, c'est celui le plus intense, que quand tu es sur scène, ça passe super vite. Enfin, c'est très très vite fini et c'est vrai que sur scène, il y avait une vraie énergie qui se crée et tout. Et c'était méga agréable et comme a dit Romy, ouais, t'as juste envie d'y retourner et d'y rester. Genre.
D'autant qu'on avait quand même la chance de jouer dans des salles qui étaient vraiment pro.
Ouais.
On a joué vraiment dans des super salles, il y avait un bel encadrement aussi, il y avait une équipe, il y avait un membre de chaque école, je crois, qui chapeautait un peu le projet. Et du coup, on avait vraiment un encadrement assez pro où c'était pas un concert dans le fond d'un bar avec des micros qui larcènent. Il y avait à chaque fois un ingé son, un ingé lumière. Donc on a vraiment eu des conditions, enfin pour une première scène, c'est vraiment le top qu'on puisse imaginer.
Ah non, c'est clair.
Et donc on avait vraiment la chance d'avoir ça, mais il y avait une pression aussi du coup, parce que c'était pas le petit concert chill dans une école de musique ou dans un bar, là c'était une vraie scène, on avait des loges, enfin c'est... Moi je me souviens que le premier aussi j'avais été assez impressionné, je m'attendais pas à ce qu'on ait, ce type d'accueil, c'était vraiment très pro quoi.
On était vraiment les stars.
Ouais, complètement.
Ouais, en vrai, pour une première scène, ça a l'air assez impressionnant, surtout donc, comme tu as dit, la façon dont vous étiez encadré. Est-ce que vous avez retrouvé cet encadrement aussi pro dans les autres scènes que vous avez pu faire plus tard ?
Bah, on a eu que ces quatre concerts pour l'instant. Du coup, les quatre étaient dans ce cadre-là et étaient toutes du même niveau. Le Jack-Jack de Bronze était quand même encore un cran au-dessus parce que c'est une vraie grosse salle qui peut accueillir, je dirais au moins 400 personnes.
Ouais.
300-400 personnes.
Ouais, au moins.
Dans ces eaux-là. Avec une sono vraiment impressionnante. Là, c'était vraiment, vraiment le top du top. Et depuis, bah, on n'a pas refait de concert. Donc. On n'a pas eu d'expérience.
Mais on a refait quelques jams, notamment au Sirius ou dans des bars de Lyon. Et bon, du coup, c'est pas du tout la même ambiance. C'est beaucoup plus relax, beaucoup plus chill. Mais
c'est vrai que sur l'alchimie de ce qui se passait sur les scènes, je me souviens vachement de quelqu'un qui était venu me voir à la fin qui disait « Ouais, ça fait quoi, 3-4 ans que vous jouez ensemble ?» Et on était en mode « Non, ça fait 2 mois et demi. » Et il disait « Ah ouais, vous vous comprenez vachement bien. On sent qu'il se passe quelque chose sur scène. Vous vous regardez tout le temps. » Et j'étais vraiment, enfin, ça m'avait vraiment mis sur le cul. Genre, ah ouais, à ce point, enfin, je le ressentais personnellement quand on était sur scène où il y avait vraiment des super interactions. On se regardait tout le temps, on interagissait vachement les uns avec les autres. Mais que ça se voit à ce point et qu'on vienne nous le dire à la fin du concert, enfin, par quelqu'un que je connaissais pas, c'était même pas un pote en plus. Du coup, c'était vraiment très sympa.
C'est ouf ça. Tu saurais un peu expliquer pourquoi il y a eu une telle alchimie dès le début? Pourquoi en seulement 2 mois et demi de répétition, vous avez réussi à pondre un truc aussi carré?
Alors comme ça, je sais pas, je dirais que tout le monde y allait vraiment avec beaucoup d'envie et beaucoup de spontanéité. On y allait vraiment pour faire de la musique et l'idée en tout cas, moi, enfin les autres vous me corrigerez si je me gourre, mais c'était vraiment on y allait pour s'éclater et faire de la musique. Et il y avait vraiment ce côté genre on veut juste s'éclater sur scène et enfin moi je le prenais vraiment comme ça de bah, vas-y on a 4 concerts dans des super conditions, autant se faire plaisir et autant s'éclater. En plus on a bien bossé le set, on maîtrise bien, donc je pense que c'est ça qui a fait que ça marche bien. C'était vraiment l'envie de se faire plaisir sur scène.
Ouais c'est ça, ouais, je dirais que c'est vraiment la passion du truc. D'avoir envie de vivre à fond cette expérience. En plus, c'est comme disait Léon, on avait vraiment bien, bien bossé pour ça. On était vraiment, vraiment prêts. Donc, je dirais que c'est un peu tous ces ingrédients qui ont fait que ça a bien marché. Puis, on s'entend relativement bien. Même s'il ne faut pas dire, mais Julien, bon.
Je me tais, mais t'inquiète, j'arrive. Hein.
Mais voilà, en plus, on s'entend tous super bien. Donc voilà, je dirais que toutes ces choses ont fait qu'on s'est éclaté. On a vraiment kiffé, quoi.
Ouais, c'est un peu ça, genre il y a une bonne communication au sein du groupe et on y a vraiment tous mis du nôtre. Genre on s'est vraiment investi à peu près au même niveau et je pense que c'est ce qui a fait que ça a très bien marché aussi.
Ouais, bah si je peux rajouter quelque chose, je vais faire un comparatif avec l'ancien groupe dans lequel j'étais, je ne vais pas le citer évidemment. Mais voilà, c'est dans mon ancien groupe, on avait fait d'autres expériences bien plus conséquentes. Enfin je veux dire, on avait eu des gros tremplins et tout. Et malgré tout ça... Malgré un concert aux Pays-Bas, plein de trucs. Malgré tout ça, je me suis jamais autant amusé. On n'a jamais fait quelque chose d'aussi quali en soi en groupe qu'avec cette formation en 2 mois et demi. Tout simplement parce que on a 4 têtes intelligentes. Enfin, trois au moins, enfin je m'inclus dans les têtes intelligentes.
Tu rejettes
narcissique le monsieur.
tu rejettes qui, dis-nous.
Mais c'est pareil, je ne citerai personne. Mais non, donc c'est voilà, c'est quatre têtes intelligentes qu'on vient tourner. De toute façon c'est dur hein, le groupe, il y a toujours cette relation de cette remise en question en permanence, et là voilà, ça a très bien fonctionné parce que évidemment on veut bien faire et il y a pas de prise de tête, personne ne se croit au-dessus de quelqu'un d'autre, enfin voilà, il y a pas de narcissisme, il y a pas d'égoïsme, c'est un vrai groupe qui fonctionne bien quoi.
Et puis en soi c'était un peu plus simple dans le sens où on avait vraiment cette ligne directrice qui était du coup Hendrix et on avait une deadline où on savait qu'il fallait qu'on soit prêt pour telle date et ça je pense que ça nous a aussi vachement aidé à créer des choses qui du coup étaient cohérentes et du coup c'était aussi un peu moins prise de tête dans ce sens-là même si on a fait quand même pas mal d'arrangements.
Et du coup après ce projet de quatre concerts de Hendrix, qu'est-ce qui s'est passé pour vous ?
Manon s'est enfuie.
Oui, je suis partie un semestre en mobilité au Royaume-Uni. Donc du coup, en plus, je pensais partir un an à l'époque. Donc j'étais genre, à la fin des concerts, donc, parce que ça s'est terminé vers juin. J'étais un peu en mode, bon bah, ciao les gars, je ne reviendrai pas. Et au final, donc, ma mobilité s'est raccourcie et j'ai repris, enfin je suis revenue... Du coup, on a recommencé à bosser vraiment en janvier. Mais pendant le laps de temps où j'étais pas là, du coup, premier semestre de L3 pour certains, et enfin, premier semestre, enfin, fin 2023, quoi, le groupe a continué à bosser sur des instrus. Je peux peut-être vous laisser en parler.
Oui, bah après, l'enjeu après Hendrix, c'est qu'on a été tellement accompagnés, on a été tellement, tellement poussés sur des belles scènes avec un bon public que quand on ressort de cette espèce de tremplin, en fait, hein, c'était une sorte de tremplin musical, quand on ressort de tout ça, qu'on se retrouve tout seul, que du coup on va se dire, bah, on va entamer nos compos, on va vraiment s'approprier le projet, c'est d'autant plus dur, en plus que Manon, effectivement, est partie, donc pour travailler les compositions, ça a été plus compliqué, etc. C'est compliqué quand même de se relancer sur un projet lorsqu'on a été accompagné avec des dates, un objectif, et là en fait on est tout seul, c'est nous qui devons nous fixer nos propres objectifs, qui devons composer nos propres chansons sans... Voilà, en gros on te dit, bah voilà, tu fais un projet, point. Et voilà, le cerveau n'aimant pas cette liberté totale, c'est toujours très compliqué de repartir. Ouais.
Moi, pour ma part, à la fin du projet, enfin au milieu, je m'étais dit, vas-y, on fait les concerts, puis ensuite j'irai voir ailleurs, enfin je sais pas comment ça va continuer, mais moi je voulais un peu partir. Et finalement, à la fin des quatre dates, j'étais vraiment impressionné de ce qui s'était passé sur scène et de ce qu'on avait réussi à créer, que je m'étais dit vraiment ce serait dommage qu'on s'arrête là et autant qu'on essaye de continuer. Donc après, Manon était partie, donc c'était un peu plus dur quand on n'était plus que trois. On a essayé des choses, on a fait quelques répètes, on a pu préparer quelques trucs. Et du coup, quand Manon est revenue, j'étais vraiment trop content de retrouver cette ambiance qu'on avait. Ça, c'était dès la première répète, c'est vraiment revenu d'un coup. C'était six mois après et c'est revenu comme avant en deux minutes. Quoi. C'était assez impressionnant à voir.
Et du coup, Julien, tu m'as parlé de faire ses propres musiques. Comment ça se passe, du coup, le processus de création de vos propres compos ?
Comment se passe le processus ? Bah, ça, c'est... Ouais, personnellement, parce que ça se passe jamais de la même manière dans chaque formation, mais nous, voilà, disons qu'il y a une idée qui est impulsée par un membre du groupe, que ce soit un riff, une suite d'accords, ce genre de choses, ou même des paroles, une mélodie. Et on essaie de construire plutôt ensemble autour de ça. Après, arrêtez-moi si je me trompe, mais j'ai un peu plus cette patte d'arrangement. Je pars beaucoup de l'arrangement et après, je pose une maquette, on en discute et on arrive en répète et on remodifie tout ça. Enfin, on essaie en tout cas d'être au maximum dans l'interaction, dans le changement. Parce que à partir du moment où on fait un groupe, j'estime que ça doit et ça... Enfin oui, ça doit fonctionner au maximum comme ça, parce que sinon, autant faire une formation avec le nom d'une personne qui fait tout, ou quasiment tout, et voilà, quoi, ça file avec le nom de cette personne, le nom de son projet, et pas le projet d'un groupe de quatre personnes. Quoi.
Ouais, et puis, notamment sur une compo aussi, ce qu'on a essayé de faire, c'est pour être le plus efficace possible. On allait bosser des idées chez les uns et les autres, notamment chez Julien, pour ensuite, derrière, quand on arrive en répète, qu'on soit efficace, puis qu'on puisse essayer tout ce qu'on s'est dit au préalable, et voilà, pour être le plus efficace, comme je disais, gagner du temps, avancer rapidement, et voilà, pour qu'en répète, le temps soit consacré aussi aux instruments, et vraiment, c'est ça, au test de tout ce qu'on s'est dit, de tout ce qu'on s'est dit avant, pour avancer, et pour essayer de composer le plus possible aussi, ouais.
On met souvent du temps avant de fixer des versions définitives. D'ailleurs, ouais, ça commence souvent, ouais, c'est ça, c'est une idée. Souvent, c'est Julien qui apporte une idée avec une maquette. Et ensuite, on la prend, on la tord dans tous les sens, on garde des parties, on en dégage d'autres. Et même, on le fait tourner des fois plusieurs semaines avant de dire, bah là, ce serait bien de rajouter quelque chose, là, il manque quelque chose, là, il faudrait faire une fin. Donc, ça, on met vraiment beaucoup de temps avant de dire, ok, là, on a une version qui nous plaît, c'est fini. Mais du coup, ça fait qu'on peut les travailler sur des fois même plusieurs mois. Et à la fin, ça, une fois qu'on a quelque chose dont on est content, tout le monde a apporté quelque chose. Tout le monde a apporté, là, il faudrait peut-être faire des nuances. Là, il faudrait peut-être refaire un couplet. Là, il faudrait rajouter des paroles ou changer un peu la mélodie. Et une fois qu'on est content, on commence à dire qu'on est une compo. Mais ça met vraiment du temps entre le moment où on commence en disant on commence une compo et on a une version où on est fini. Il y a souvent ouais, un ou deux mois facile.
Ok, et du coup... Tu m'as dit à peu près un ou deux mois pour créer une compo. À l'heure actuelle, vous pensez pouvoir dire que vous avez combien de compos perso dans votre répertoire ?
Là, on en a trois, c'est ça ?
Trois à 100% où on part de rien. Après, les Hendrix, il y a vraiment des gros arrangements. Donc,
oui, c'est vrai.
Ce sont quand même assez personnels aussi. Et je crois que vous y avez passé beaucoup de temps sur les arrangements. C'était la partie où je n'étais pas là, mais je crois que c'était Julien Roméo. Vous avez vraiment passé beaucoup de temps à arranger ces musiques. Donc, on peut considérer qu'on en a quoi 5-6 qui sont assez personnels. Trois où on part de rien et trois où on part de riffs existants ou de paroles.
Ouais, c'est ça où on a rajouté, surtout Roméo et Julien, vraiment des grosses intros ou des petits passages où on a un petit peu du coup modifié pas mal la structure de base.
Des fois, si on ne sait pas que c'est ce morceau-là, c'est pas forcément évident de se dire « Ah, c'est ça qu'il est dit de Hendrix ».
Et vous avez pour projet de faire une représentation prochainement pour présenter ces compos, présenter vos reprises, montrer votre travail ?
Ouais, écoute, normalement, on a un concert le 1er juin au Tram 33 sur la place Carnot.
Venez.
Ouais, venez nombreux.
Ah bah c'est le moment de faire votre pub.
Voilà, c'est ça.
Venez.
Donc oui, bien sûr, l'objectif, c'est de faire le plus de concerts possible. C'est pour ça qu'on, là, sur ces derniers temps, on s'est activé pas mal pour démarcher dans plein de bars à Lyon, envoyer des mails, demander s'ils avaient des créneaux disponibles pour qu'on puisse jouer, puis qu'on puisse défendre notre boulot, nos compos, nos reprises. Et puis qu'on puisse retrouver ce plaisir aussi de la scène, tous ensemble.
Alors du coup, on parlait de représentation live. Est-ce qu'à terme, vous pourriez aussi faire des enregistrements studio et ensuite proposer ces enregistrements sur des plateformes ? Ou pour l'instant, vous préférez vous contenter, c'est un mot un peu faible, plutôt vous satisfaisez du live et c'est le format qui vous plaît plus ?
Ça, en fait, c'est quelque chose qui reste à voir parce que, effectivement, on aime beaucoup, beaucoup le live, la scène. On a pu déjà en discuter. Mais il y a cette problématique qui se pose, c'est celle des... Où est-ce qu'on est l'année prochaine, quoi ? Parce que pour Julien et moi, il y a eu la période des masters. On ne sait pas trop où est-ce qu'on va être accepté. De toute façon, c'est la plateforme qui va choisir pour nous. Donc, en sachant que Elian et Roméo, ils restent très probablement sur Lyon. Donc, ça, à la limite, du coup, c'est pas trop le problème à ce niveau-là. Mais du coup, pour ce qui est vraiment s'investir dans un enregistrement studio, faire de la promo sur la sortie, d'un EP potentiel, etc., c'est encore un peu... On n'en a pas trop parlé et pour l'instant, je pense qu'on va juste se laisser le temps de voir un petit peu comment est-ce que le groupe va évoluer rien qu'au mois de septembre.
Oui, puis hormis ça, le nerf de la guerre, c'est l'argent. un enregistrement studio, voilà, que ce soit le mixage, le mastering ou même l'enregistrement, tout simplement, ça coûte extrêmement cher. Donc l'objectif, là où on en est, avec les subventions qu'on a, c'est-à-dire pas grand-chose, voire rien du tout, c'est en fait de faire des concerts, de recueillir un maximum d'argent. Pour ensuite potentiellement le réinvestir dans... après, c'est à voir comment est-ce qu'on avance, comment est-ce qu'on est conseillé, si on arrive à faire des tremplins, ce genre de choses. Mais l'objectif, c'est de développer le projet et l'enregistrement peut-être viendra assez rapidement sur les plateformes, parce que c'est aussi important quand on se vend pour des marchés d'avoir aussi ces écoutes sur Spotify, sur Deezer, ce genre de choses. Mais bon, il y a plein de choses qui rentrent en compte, que ce soit aussi les clips vidéo, parce que les salles aiment beaucoup voir comment est-ce qu'on est sur scène, quel est notre univers, quoi. Donc en soi, pour les écoutes et l'enregistrement, c'est quelque chose qui se fait aussi en fonction de l'avancée du projet et des moyens qu'on a.
Ouais, c'est ça. Puis même avant de s'investir dans quelque chose, dans des morceaux qui vont sortir potentiellement sur des plateformes, je pense que c'est important aussi de vraiment jouer en live et de commencer à se créer une espèce de petite communauté, même à l'échelle locale, de gens qui vont potentiellement nous accompagner et genre permettre une espèce d'effervescence autour de notre projet au moment où il pourra être publié sur des plateformes, pour éviter que ce soit un bide, quoi.
Ouais, carrément.
Mais après, même pour nous, c'est vrai que c'est quand même bien d'avoir une version enregistrée. J'ai vu que le Jack proposait des... Ils ont un petit studio d'enregistrement, donc il y a peut-être moyen de faire des... Peut-être moyen d'enregistrer là-bas, pourquoi pas. Faudrait voir avec eux.
Et est-ce que, du coup, on peut considérer que la création et donc peut-être l'enregistrement d'un projet, c'est un des gros objectifs à terme du groupe, peu importe le temps que ça peut prendre?
Oui, quand même, parce que je pense que ça pose une pierre, quoi. C'est symbolique, ne serait-ce que d'avoir quelque chose d'enregistré sur les plateformes, que tout le monde puisse écouter ce qu'on fait. Après, voilà, comme elle a dit Manon, pour l'instant, c'est pas la priorité. L'objectif, c'est de faire le plus de concerts possible pour se faire connaître sur la scène déjà lyonnaise. Et ensuite, enregistrer... Ça, pour l'instant, ça reste quand même, je dirais, secondaire. Puis peut-être qu'on continue de composer pour avoir le plus de matière possible pour des potentiels enregistrements.
Donc là, du coup, on a parlé un peu de l'objectif en tant que groupe à terme. Est-ce que chacun individuellement, vous pourriez me parler de vos objectifs personnels dans la musique ?
Ouais, moi, je peux en parler un peu. Moi, mon but à terme, personnellement, c'est de devenir musicien. Alors, de base, j'ai pas du tout cette formation-là. Hein. De base, actuellement, je suis doctorant en physique. Du coup, c'est vraiment assez loin de tout ça. Mais mon but personnel depuis un an ou deux, là, c'est vraiment à terme de devenir musicien. Du coup, le fait de revenir aussi dans cette formation, j'avais un aspect, je veux pouvoir avoir le maximum de style, le maximum de style possible. Comme je disais, je fais beaucoup de jazz en ce moment. Donc, changer un peu de style, ça fait quand même pas mal de bien. Ça ouvre... ouvre des portes et c'est utile d'avoir plusieurs cordes à son arc. Donc mon but musical à terme, ce serait vraiment d'être intermittent du spectacle et d'accompagner des gens en tant que bassiste sur le maximum de styles possible et sur un maximum de projets.
Bah écoute, pour moi, en soi, je peux un peu avoir le même objectif que Kélian, tu vois. Parce que déjà, je me suis réorienté dans une licence de musico. Donc je fais quand même beaucoup de musique chaque jour. L'objectif, c'est de pouvoir à terme vivre de la musique, devenir musicien d'un groupe, de plusieurs groupes, juste accompagner quelqu'un dans son projet solo. Enfin voilà, quoi, c'est d'être le plus possible sur le tabouret derrière les fûts, quoi. Donc l'objectif pour moi c'est ça. Ouais.
Après donc pour moi l'objectif ça a toujours été ça en fait, même s'il est sous-jacent. Après il y a des enjeux un peu plus familiaux, économiques qui rentrent en jeu. Mais oui j'ai toujours rêvé, voulu être musicien pro. Après il y a toujours cette envie effectivement de monter son projet et cet espoir que ton projet réussisse quoi. Donc ça c'est vraiment un rêve. Après oui, tourner en tant que musicien 2 ou musicien studio, voilà, faire de la musique sur son instrument, oui, c'est un sacré objectif. Après voilà, avec les sciences politiques, j'essaie de me rediriger dans la direction d'établissements culturels ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment rester dans la musique, quoi qu'il en coûte, quels que soient les moyens, en tant que directeur ou en tant que musicien. Mais bon, l'objectif a toujours été d'être musicien, évidemment.
Bah moi c'est un peu pareil quoi, c'est pas très original mais j'aimerais bien rester dans la musique aussi et à terme faire pop star. Voilà, j'aimerais bien que ce soit marqué ça sur mon CV. Le but ce serait vraiment de pouvoir créer, enfin même si c'est pas mon projet à moi en soi, faire de l'écriture, enfin de paroles, de chansons, du coup là actuellement enfin ce serait plus inspiration pop quoi. Enfin c'est quelque chose qui me tient pas mal à cœur parce que enfin juste partager la musique et pouvoir enfin être relié via ça à d'autres gens. Enfin je trouve ça super beau, voilà. Et très plaisant également. Donc du coup voilà, ce serait super que ça puisse marcher aussi titre professionnel, mais pour l'instant enfin ça reste un loisir jusqu'à ce que un jour peut-être voilà. Quoi.
Ouais, l'idée globale pour chacun et chacune, ça reste quand même de faire de ce loisir un métier. Ça serait beau, je vous le souhaite, en tout cas. On avance pas mal dans cette interview. Je vais vous proposer un petit jeu. C'est pas compliqué, c'est un test de personnalité musicale. Je vais simplement vous poser quelques questions. Vous aurez tous les mêmes questions. Mmh. La question, ça va être simplement qui se lance d'abord.
Bah, allez, je me lance.
Allez. Alors, Roméo, ta chanson préférée all time?
A Day in the Life des Beatles.
Et la deuxième question, c'est quel est l'album qui t'a le plus marqué?
Je dirais Dark Side of the Moon des Pink Floyd.
Ok. Ensuite, c'est quel est le premier album que tu te souviens d'avoir écouté?
Alors, je vais revenir sur les Beatles. C'est Abbey Road, celui okay. où ils sont les quatre là, sur le passage piéton.
Je vois très bien. Je pense pas être le seul à voir de quel album tu parles. Ça reste quand même très, très rock, du coup. Hein. Ouais. On retrouve vraiment ouais. bien mes inspirations rock.
Bah, c'est ça, parce qu'à la base, c'est mes influences, elles sont très rock. Ouais.
La question d'après, c'est quelle est la chanson que tu écoutes en boucle en ce moment?
La chanson que j'écoute en boucle bah en fait il y en a plusieurs, tu vois. Je dirais que c'est peut-être un morceau d'Hendrix. Je pense que c'est Freedom d'Hendrix que j'écoute beaucoup parce que déjà on le joue et puis parce que je trouve qu'il est super cool ce morceau, en fait. Super bien produit, super bien composé, puis c'est Jimi Hendrix, quoi.
Ouais, ça reste Jimi Hendrix, ça reste l'essence des Flamingos finalement.
Ouais, c'est ça.
Et enfin, la dernière question, c'est quel est ton featuring de rêve?
Je dirais que ce serait avec un batteur qui s'appelle Youssef Days, qui est une machine de guerre, qui doit sûrement avoir 12 bras, je pense, et 8 pieds, et voilà, qui est juste monstrueux à la batterie, et qui n'est pas du rock.
Eh bien, merci, Roméo, tu t'en es très bien sorti.
Merci, Achille.
À qui le tour?
On m'a désigné du doigt.
Julien,
jette-toi dans la gueule du loup.
Julien, tu es désigné, et du coup, je commence donc. C'est le même ordre hein, pour ouais. la question. Quelle est ta chanson préférée?
Ma chanson préférée, alors c'est horrible comme question, parce qu'il y en a trop, évidemment. Des chansons géniales. En réalité, je n'en ai pas, et ça change tout le temps. Mais comme tu as dit, of all time, tout à l'heure, je dirais quand même, classiquement, très classiquement, Bohemian Rhapsody, parce que j'estime que c'est un chef-d'œuvre absolu, même si tout le monde le chante en soirée complètement bourré, extrêmement faux. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre, on passe par plein d'univers, notamment l'univers opéra, oui, je vais y arriver, et c'était assez ambitieux de leur part, même à Queen, de composer quelque chose de ce type-là, de le mettre à la radio, de passer ces 6 ou 7 minutes, je crois, le morceau. Enfin voilà, c'est quelque chose de très ambitieux, extrêmement bien composé, avec des harmonisations incroyables. Enfin, voilà, je dirais Bohemian Rhapsody.
Mmh. Ouais. On sent que tu es admiratif du rendu, mais aussi admiratif de tout le travail qu'il y a derrière.
C'est ça. Après, Queen, je prends beaucoup de recul. Hein. Je ne suis pas un fan absolu de Queen, mais je trouve que Bohemian Rhapsody, c'est un chef-d'œuvre vraiment.
Bah, c'est une très belle réponse, bien organisée. Et la question suivante, du coup, c'est quel est l'album qui t'a le plus marqué?
Alors, des claques musicales, il y en a plusieurs. Hein. Je pourrais te citer la première quand j'étais tout petit, c'est ACDC, voilà, avec Way Too Well. Mais bon, c'est trop. C'est plus le cas aujourd'hui. Si je fais un raccourci sur ma dernière claque musicale en termes d'album, c'est un album qui s'appelle What Kind of Music, qui est justement un album qui a été coproduit par Youssef Days, le batteur dont parlait Roméo tout à l'heure, et Tom Misch, donc voilà, un guitariste anglais de Neo Soul. Voilà, c'est un album que je trouve aussi très bien produit, un univers très à la frontière entre la pop, le hip-hop, le rap, mais c'est assez particulier. Je trouve que la production est extrêmement bien faite, qu'il y a une identité en tout cas qui est très forte, et ça ressort beaucoup de tout ce que j'ai pu écouter, et c'est mine de rien très accessible, malgré toutes les influences jazz qu'il y a. Donc je dirais cet album-là.
Ouais, c'est un album que tu pourrais peut-être conseiller aux gens qui sont pas habitués à écouter du jazz, du rock.
Carrément, bah c'est même au sein de cet album, un morceau que je conseille à tout le monde et qui pour l'instant a fait l'unanimité, c'est un morceau qui s'appelle Festival. C'est le deuxième morceau de l'album. Il a fait l'unanimité pour l'instant.
Je vois Roméo qui hoche la tête à côté de toi. Cette réponse a l'air de vous satisfaire. Et la question suivante, c'est quel est le premier album que tu te souviens d'avoir écouté?
C'est sûrement grâce à mon père, le premier album de Led Zeppelin. Parce que je l'ai dit tout à l'heure, hein, je reste un guitariste de blues rock classique avec voilà, un papa qui a écouté ça dans les années 70-80. Donc je dirais le premier album de Led Zeppelin.
Nickel. La chanson que tu écoutes en boucle en ce moment?
Alors c'est pareil, ça change un petit peu trop ça. Mais en ce moment, je reviens sur quelque chose que j'ai beaucoup écouté en début d'année. C'est une rappeuse anglaise que j'adore, qui s'appelle Little Sims. Et donc ce morceau s'appelle Introvert, avec un petit accent français sympathique. Mais voilà, ce morceau, c'est quelque chose de très... je le trouve magistral en fait. Il commence avec des cuivres qui arrivent en masse. C'est des cuivres genre hélicon, trombone, enfin beaucoup de bas, un petit peu d'aigu aussi. Et ça s'additionne un petit peu comme une symphonie au final, pour à la fin arriver sur une énergie exponentielle, avec un rap et une identité et un flow juste extraordinaire aussi de Little Sims, donc ce morceau-là, Introvert de Little Sims.
T'as un affect particulier avec le rap aussi ?
C'est pareil, je prends beaucoup de pincettes avec le rap, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de choses, surtout en ce moment, qui sont voilà, plus ou moins commerciales, c'est pas un gros mot de le dire, et c'est pas parce que c'est commercial que c'est pas bien aussi, hein. Mais le rap en soi, c'est quelque chose qui est très, pas forcément jeune, mais qui innove énormément en ce moment, et voilà, je vais prendre l'exemple d'un gros rappeur que tout le monde connaît, qui s'appelle Kendrick Lamar, qui objectivement innove énormément, que ce soit en termes de production, voilà, je l'ai, sur un de ses albums, il fait du rap sur du bebop, enfin, c'est un morceau qui s'appelle Free, je crois, enfin, comme le free jazz. Donc c'est vraiment, je trouve, le rap en ce moment qui innove le plus. Et j'ai pas une attache particulière, mais c'est là qu'on ressent le plus de fraîcheur.
Ok, très bien. Et enfin, dernière question pour toi, quel est ton featuring de rêve ?
Bah, je dirais que, effectivement, ça pourrait être Jeremy Winehouse, parce que restons dans le rêve, ça n'est pas possible. Oui, exactement. Mais je dirais Amy Winehouse parce que c'était une identité vocale qui a bouleversé tout le monde. Hein. Bon, si on reste dans les mythes, c'est la dernière du Club des 27, en tout cas dans la musique, je crois. Et donc, c'est, voilà, c'est le début de la néo-soul, donc tout ce qu'on voit aujourd'hui avec Tom Misch ou même plein d'autres choses. Et voilà, ce serait un rêve de chanter, de jouer avec elle, parce que je ne m'essaierais pas à chanter à côté d'Amy Winehouse. Mais voilà, donc je dirais Amy Winehouse.
Parfait. J'en profite pour faire notre pub, hein, le Club des 27. On a fait une petite chronique sur le Club des 27 dans un de nos podcasts. On vous invite à aller écouter, bien sûr. Alors Manon, quelle est ta chanson préférée all time ?
Alors du coup, j'ai eu un peu le temps d'y penser, mais en vrai, ça me vient quand même assez naturellement. C'est une musique qui, enfin, l'intro, elle me procure quelque chose de fou. C'est Where the Streets Have No Name de U2. Et je trouve qu'il y a un petit riff de guitare qui est tout simple, mais qui arrive de très très loin et qui prend de plus en plus de place. Et ça me donne des frissons systématiquement. J'essaie de pas trop l'écouter pour toujours garder un petit peu cet effet. Pas de surprise, mais un peu, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. Lui me transporte.
J'avoue, je fais ça aussi avec les chansons que j'aime bien. J'essaie de pas les écouter trop souvent pour pas me lasser.
C'est ça.
C'est une bonne strat.
C'est ça.
L'album qui t'a le plus marqué ?
Je pense que c'est un des premiers albums que j'ai écoutés, c'est Born This Way de Lady Gaga, qui est vraiment pour le coup une identité vocale pour. C'est vraiment une. Autant musicalement que même visuellement. Dans tous ses clips vidéo, je la trouve extrêmement extravagante. Elle a essayé beaucoup de choses. C'était un peu précurseur à l'époque, en tout cas, dans les années 2000-2010. Et c'est quelqu'un qui m'a beaucoup, beaucoup inspirée parce qu'elle n'avait pas trop de filtres, quoi. Ouais, c'est un personnage que j'aime beaucoup.
Et quel est le premier album que tu te rappelles d'avoir écouté ?
Ouais, je pense que c'est Back in Black de AC/DC. C'est un des premiers qu'on m'a offert. J'ai eu ça à Noël, je pense. Et lui, pour le coup, je l'ai saigné, si je puis dire. Enfin, ça m'a initié un petit peu au rock.
Ouais, quand même, toutes et tous, une assez grosse initiation rock, qui du coup, je suppose, vient pour la plupart des parents.
Ouais, personnellement.
Ah oui, bien sûr, c'est leur génération, de toute manière.
Oui, voilà.
Ah ouais. Ouais, à titre comparatif, moi, j'ai pas du tout eu cette initiation au rock, et je regrette un peu en soi. Moi, mes parents avaient une culture musicale très... très faible, hein. Je n'en veux pas, hein, mais j'ai pas eu cette initiation au rock que je dirais pas que je découvre, mais que j'apprends à apprécier de plus en plus. Alors, on en était à la chanson que tu écoutes en boucle en ce moment.
En ce moment, c'est Say Cheese de Paul Russell. C'est quelque chose d'un petit peu, ça bouge, quoi, ça donne le smile. Non, c'est vachement énergique, solaire, et moi, ça me fait danser. Tant que ça me fait danser, en vrai, peu importe, quoi.
C'est important, en effet, je suis d'accord avec toi. Et enfin, la dernière question pour toi, quel est ton featuring de rêve ?
Ah, j'ai envie de dire Lady Gaga, en vrai. Parce que pour toutes les raisons que j'ai citées avant, je pense que nous voyons très bien ensemble, ouais.
Tu te vois un peu chanter avec elle
Ah, carrément. On harmonise l'une l'autre et tout. Alors, je vois un truc de fou.
Trop bien.
Un truc de fou.
Eh ben, merci beaucoup, Manon, et on passe directement à Ebian.
Yes.
Et bien, ta chanson préférée ?
Moi, je pense que ce que je préfère, mais c'est un morceau de Meshuggah qui doit s'appeler Marrows. C'est un groupe de métal suédois qui est assez vieux, qui a vraiment créé un style de métal vraiment très rythmique. Il y a très peu d'harmonie dans ce qu'ils font. Ils utilisent des guitares 7, 8 cordes, 9 cordes des fois, je crois. Et donc, c'est très grave, c'est hyper rythmique et ils utilisent beaucoup de mesures asymétriques en 7, 4, 9, 4. Enfin, c'est très particulier, mais c'est très rythmique et du coup, je trouve ça hyper dansant, en fait. Alors que ça, c'est pas forcément évident. Enfin, faut passer le choc de c'est du gros métal avec des chants saturés plutôt violents. Mais c'est vraiment, je trouve, ouais, ce qu'il y a de plus dansant dans la musique, bizarrement, parce que c'est extrêmement rythmique et ça fait vraiment bouger. Dans tous les cas, du coup, ouais, Maro, je pense, de Meshuga, c'est...
Ouais, toi, tu nous avais dit dans ta formation, entre guillemets, t'es très métal.
Ouais, ouais, j'ai beaucoup quand j'étais un peu plus jeune et c'est quand même resté. Je m'y remets de temps en temps et c'est quand même un genre que j'adore beaucoup. Enfin, ouais. Qui est ouais. Génial.
L'album qui t'a le plus marqué?
Ouais, alors ouais, comme Julien, ça va être dernièrement parce que genre, ça change beaucoup, mais je pense dernièrement il y a Empire Central de Snarky Puppy, qui est un super groupe de jazz qui est emmené par Michael Lee, qui est un bassiste incroyable et qui a vraiment la juste place du bassiste, à mon avis. Il prend pas trop de place, il est au fond, il fait les fondations et il fait ça super bien. Et ils ont une super section cuivre, c'est un album super... c'est très écrit, mais il y a des arrangements vraiment incroyables. Il y a des sons avec Bernard Wright, je crois, qui a lâché un solo de piano dessus, qui est juste incroyable. Et ouais, cet album, c'est vraiment une énorme claque. Je conseille à tout le monde d'aller écouter ça.
Je suis
ouais.
D'accord. Ouais.
La table approuve.
Oui.
Le premier album... que tu te rappelles d'avoir écouté.
Alors, moi aussi, ça va être vieux rock de mon père. C'était Niagara, un groupe de rock français. Et c'est super bien. C'est une voix qui marque, je trouve, vraiment fort. Il y a des super trucs de rock. C'est pas trop énervé comme rock, mais c'est vraiment la voix qui est très particulière et je trouve qu'il marque vraiment très fort. Ouais. Niagara, je sais plus lequel c'était. Et sinon, il y a pas longtemps, j'ai aussi retrouvé un album qu'on m'a offert à Noël. Le premier, je pense, c'était un live d'ACDC aussi. Et je suis retombé dessus il y a pas longtemps et je l'ai réécouté. Et ouais, c'est vrai que c'est quand même bonne claque. Un album live d'ACDC qui est vraiment super.
Ouais, j'avais hésité justement à tourner cette question différemment, à dire quel est le premier album que tu te souviens d'avoir eu entre tes mains.
Ouais.
Mais je me disais que c'était peut-être un peu plus difficile d'y réfléchir comme ça. Mais c'est bien, comme ça t'as répondu aux deux.
Bah voilà.
C'est nickel. Alors, la chanson que tu écoutes en boucle en ce moment?
Alors, en ce moment, c'est Sonic Wonderland de Hiromi. C'est aussi une pianiste jazz japonaise qui joue notamment avec Adrien Ferro à la basse, je pense le meilleur bassiste moderne en jazz en ce moment. Et c'est un son incroyable, c'est en quartet avec un trompettiste et un batteur et un bassiste. Et ils ont fait une version Tiny Desk Concert qui est vraiment géniale, où ils jouent ce morceau et il y a des solos de trompette qui sont super, il y a un solo de synthé qui dure 5 minutes qui est fantastique. Cette version, ouais, Tiny Desk Concert, Hiromi, Sonic Wonderland, elle est vraiment, vraiment, vraiment très bien.
Et enfin, on va conclure avec ton featuring de rêve.
Alors là, sans hésitation, c'est Cory Wong, guitariste américain, qui fait une grosse claque. Grosse claque dans la guitare funk de ces 5 dernières années, qui tourne énormément, qui fait des projets avec tout le monde. Du coup, peut-être qu'il pourrait en faire avec moi.
Je veux bien aussi. Hein.
Il a fait des albums avec vraiment plein de gens, dans plein de styles. Il y en a un notamment avec Dirty Loops qui s'appelle Turbo, qui est absolument incroyable. Et il tourne souvent en Europe en plus, donc j'ai vu plusieurs fois en live, c'est génial, il y a une énergie de malade, pareil avec une grosse section cuivre, une percussionniste, un batteur qui a une énergie de malade. Il s'entoure souvent de bassistes qui sont très 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 forts, du coup voilà, mon but c'est de devenir très 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 fort et de faire un featuring avec Cory Wong un jour.
Bah on te le souhaite en tout cas.
Merci.
Et merci à vous quatre pour ces quatre inspirations très variées, j'espère que les auditeurs ont pu noter un peu... dans leur petit carnet, qu'est-ce qu'ils voulaient écouter. En tout cas, on a pas mal de choix. Alors, avant de conclure l'interview, je voulais revenir sur quelque chose. Évidemment, je ne pouvais pas passer à côté. C'est le nom du groupe. Pour l'explication, évidemment, je connais personnellement la plupart des membres de ce groupe. Et je sais donc de source sûre que Flamingos est un nom très récent qui a été choisi vraiment récemment.
Semaines.
C'est ça. Le groupe ne s'est pas toujours appelé comme ça. Et je voudrais donc qu'on revienne un peu sur comment vous avez choisi le nom, quels étaient peut-être les anciens noms du groupe.
Le groupe ne s'est pas toujours appelé tout court, déjà. Dans le sens où, durant tout le projet Hendrix, on s'est dit, bon, on va trouver un truc un peu, pas forcément hyper sérieux, mais histoire d'être un peu en accord, en adéquation avec le projet. Et enfin, on n'avait pas forcément trop réfléchi. Le but, en plus, on savait pas vraiment ce qu'allait advenir, enfin ce qu'il allait advenir de la formation après le projet. Donc on avait dit Hit the Road Jack Jack pour parce que Hit the Road c'est le nom d'un box. Au Jack Jack, qui est donc l'enceinte dans laquelle on répète. Donc on s'était dit pourquoi pas. Et après, du coup, il y a eu toute cette période où les garçons jouaient tous les trois. Après, je suis revenue et là, du coup, on s'est dit bon, ça relance un petit peu le truc. On veut faire des concerts, on veut genre démarcher, etc. Donc il va nous falloir une identité, il faut qu'on se crée un compte Insta et tout pour la communauté, etc. Du coup, s'en est suivi de longues discussions, d'hésitations, etc. Pour retrouver un nom de groupe, quoi, parce qu'on n'était pas tous d'accord, on manquait un peu d'inspi. Et puis, enfin, genre, mettre d'accord quatre personnes, c'était dur. Du coup, il y a un moment où on s'est dit, parce que l'année dernière, justement, pour, on avait déjà un petit peu cette idée de faut qu'on trouve un nom de groupe. On est allé manger dans un Yaffa. Ce n'est pas un placement de produit. Et, on avait demandé, justement, on s'était réunis, on s'était mangé un petit truc, et on s'était dit, bon, là, ce soir, on trouve un nom de groupe. Manque d'inspiration totale.
On n'a pas trouvé, bien sûr, ce soir.
Voilà. mais on a demandé au serveur de l'endroit où on a mangé, de ce Yaffa, est-ce que vous n'avez pas, nous, voilà, on joue de la musique, vous n'avez pas, je sais pas, une petite inspiration, des idées, etc. Il nous a dit, il nous a regardé, tous les quatre, il nous a dit, les cinq. Donc là, quand est revenue cette question de faut qu'on trouve un autre groupe, début d'année, on s'est dit, est-ce qu'on fait un truc par rapport à ça, peut-être, par rapport à cette anecdote qui nous a un peu fait rire quand même. On s'est dit, on va s'appeler les cinq. Bon,
pour respecter le choix du serveur Yaffa, on lui avait dit, il nous faut un nom, il a donné un nom.
C'est vrai.
On va s'attirer le mauvais oeil si on ne met pas ça, c'est sûr.
Du coup, on a un peu discuté, puis c'est vrai qu'au vu du manque d'engouement des gens autour, quand on a expliqué pourquoi, ouais, comment ce nom, on s'est dit on va changer, on a fait un petit sondage, on a fait une liste énorme d'idées qu'on avait, etc. Et après, on a fait un petit vote, et c'est tombé sur les flamingos, puis parce que c'est rose, c'est péchu, ça donne des good vibes, quoi, je sais pas.
Ravi en tout cas que ce soit la première explication de pourquoi les flamingos. Alors j'ai fait mes petites recherches, du coup, une fois que j'ai su que le groupe s'appelait les flamingos. Saviez-vous donc qu'il y a un autre groupe qui s'appelle The Flamingos, qui est un groupe de R&B et de soul des années 50.
Mais c'est moins bien que nous.
C'est sans doute moins bien que vous, évidemment, originaire de Chicago, donc. Est-ce que vous avez déjà écouté ce que fait The Flamingos?
Ouais, j'ai regardé, ouais.
Et ouais.
Je me suis dit que bon, c'est un peu ancien, enfin, je veux dire, ils existent peut-être plus, j'ai pas vérifié s'ils existent encore, mais on va dire qu'ils existent plus.
Eh bien, sache que officiellement, ils sont toujours en activité, même s'ils ont rien sorti depuis bien des décennies. Beaucoup de membres de ce groupe sont décédés, hein, puisque le groupe date des années 50.
Ouais, ouais, forcément. Mais ils ont pas officiellement mis fin à l'association, quoi.
C'est ça, voilà. Après, bon, j'ai fait mes petites recherches, donc c'est un groupe qui s'est séparé plusieurs fois, qui s'est divisé en deux, donc je pense que vous aurez pas trop de problèmes de droits d'auteur en vous appelant les Flamingos.
Parfait, on en apprend aujourd'hui. On en apprend.
Bien préparé l'interview. Ouais.
Et pour ceux qui n'ont pas écouté, je vous invite à écouter du coup ce qu'ont fait vos prédécesseurs.
Mm-hmm.
Ça peut être intéressant en plus.
Tout de suite après l'interview.
C'est ça. R&B et soul. Bon, c'est pas du rock, mais c'est pas non plus si lointain. Certains d'entre vous ont ces petites inspirations. R&B Soul, ça pourrait vous intéresser. Eh bien, je pense qu'on va pouvoir, conclure cette interview ici. Merci beaucoup, Flamingos, d'avoir accepté de venir ici à Lyon 2, votre université, pour trois des quatre d'entre vous.
Merci à toi, Achille, de nous avoir invités. Ça nous donne de la visibilité.
Merci beaucoup au troisième lieu.
Merci à vous. Peut-être que vous pouvez rappeler vos petites actualités juste avant de partir.
Date le 1er juin au tram 33.
1er juin, tram 33.
Voilà. Venez.
Merci beaucoup. J'espère que cette interview vous aura plu, très chères auditrices et très chers auditeurs. Et on se retrouve prochainement pour, je l'espère, une nouvelle interview. Merci à toutes et à tous.